Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalungu, des programmes qui sont relayés via notre réseau de 52 radios et 7 télévisions partenaires dans tout le Niger. Bienvenue dans ce nouveau numéro du forum de Studio Kalungu qui a pour thème crise économique au Niger suite au coup d'état du 26 juillet. Comment les usagers de la banque s'adaptent à la situation? Depuis le coup d'état du 26 juillet, le Niger vit sous les sanctions économiques ouest-africaines. Toutes les transactions commerciales et financières entre les États membres de la CEDEAO et le Niger sont suspendues. Dans les banques centrales de la CEDEAO, les avoirs de la République du Niger ont été gelés. Dans le pays, une rareté de liquidité sévit. Des Nigériens accèdent difficilement aux francs CFA et n'arrivent pas à s'adapter à cette situation. Quelle explication donner à cette situation? Quelle alternative pour y faire face? À ces questions et à bien d'autres, nous tenterons de trouver réponse au cours des 45 minutes à venir. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio M. Kakame Tawaya. Il est le président de l'Association des consommateurs des services de banque. Nous avons également M. Salifou Ibrahim Di Socrate. Il est économiste. Le syndicat des agents des banques invité n'est pas venu. Je suis une fille Adam Sirfou à la modération. Bonsoir à tous et merci de nous suivre chez vous. Comme je le disais, des Nigériens accèdent difficilement au franc CFA. La rareté de liquidité découle des sanctions de la CEDEAO à la suite du coup d'état du 26 juillet 2023. Pour illustrer cet état de fait, je vous propose d'écouter quelques-uns rencontrés par notre reporter Rafia.
Bon, là, on peut dire que sincèrement, on a des difficultés à s'adapter. C'est très compliqué. Parce que là, je suis arrivé depuis hier pour passer au guichet automatique pour voir si je peux avoir quelque chose. J'ai mis ma carte, ça m'a remis automatiquement que c'est pas possible. On peut pas retirer de l'argent. Là, je suis au niveau de la queue des guichets. J'ai les 250e numéro. Nous sommes déjà 11h passées. Aujourd'hui, c'est vendredi. Jusque-là, j'ai pas retiré mon argent. Sincèrement, ces sanctions nous coûtent extrêmement cher.
Si on parle d'adaptation, c'est au niveau individuel. Hein. On n'a pas de choix. Il faut étudier quand est-ce que c'est facile pour faire le retrait. Si tu as des paiements à faire, au lieu de venir faire le retrait pour payer la personne avec du cash, tu lui donnes le chèque. Lui-même vient faire le retrait. Et maintenant, par rapport à nos dépenses, il faut regarder quelles sont les dépenses les plus nécessaires. Et on s'en tient à cela.
C'est conjoncturel, ça va passer. Il n'y a pas une chose éternelle dans la vie. Nous sommes confrontés, certes, à la réalité, mais nous assumons ça parce que nous pensons qu'après ça, c'est la liberté, l'indépendance totale du Niger. Nous pensons que d'ici peu, ça va se régler et notre pays sera libre.
Alors, vous venez d'entendre quelques témoignages des usagers de la banque qui se plaignent donc de la situation. Alors, je commence par vous, M. Kakame Tawaya. Vous êtes le président de l'Association des consommateurs des services de banque. Alors, à la date d'aujourd'hui, comment se présente même la situation? À quoi est confronté l'usager de la banque au Niger?
Bien, merci de nous avoir donné l'opportunité de traiter de cette question-là.
Le plaisir est pour nous.
Il faut se dire que depuis le 26 juillet, un problème économique et politique s'est posé au Niger. Avec toutes les sanctions qu'on connaît, qui ont été imposées par la CEDEAO, et par l'UMOA et la CEDEAO. Donc, l'une qui est la plus difficile à consommer, c'était le gel des avoirs du Niger par rapport à la BCAO. Donc, cela, beaucoup l'ont déjà illustré. Il y avait un problème de liquidité qui se posait parce que la BCAO constituait la vanne d'alimentation en monnaie des banques.
La source, donc.
La source, oui. Qui alimentait les banques nationales. Du moment où déjà les difficultés se sont posées à ce niveau-là, il faut s'attendre à ce que les consommateurs soient indisposés dans le retrait de leur argent. Et vous savez, Ouattara l'a si bien illustré. Le président Ouattara disait que, ah non, d'ici peu, il sait que les gens vont commencer à retirer 10 000 francs par jour, etc. etc. Dieu merci, on n'en est pas arrivé là. Les consommateurs ont souffert du fait qu'ils ne peuvent pas retirer ce qu'ils veulent.
Justement, oui.
Et c'est ça le grand handicap. Au lieu de retirer le montant dont vous avez besoin, vous êtes contraint de tirer dans certaines banques 100 000, dans d'autres 50 000, dans d'autres 200 000 par-ci par-là. Les retraits étaient irréguliers, donc qui ne permettaient pas aux consommateurs de régler d'un trait les problèmes auxquels ils font face.
Est-ce que la situation continue aujourd'hui même?
Bon, il faut se dire Dieu merci. Moi, j'ai constaté personnellement, j'ai fait un peu le tour, j'ai constaté que la tension est en train de se desserrer un tout petit peu.
Cette semaine, quelques
Cette semaine surtout. J'ai constaté qu'il y a une légère amélioration qui est due certainement à l'habitude de la résilience que les consommateurs nigériens se sont imposés.
Mmh.
Avant, les gens venaient en grand nombre. Par la suite, sachant que la situation mérite quand même un peu de repli, les gens se sont adaptés et ils partaient donc retirer.
Il n'y a pas eu de communication autour de la situation qui devrait prévaloir. Comment l'usager s'y est pris?
Non, il faut se dire que c'est par habitude, on a fait un mois, deux mois, trois mois, les gens ont gardé et ont appris le rythme, en fait. Tu es obligé parfois de faire deux retraits ou trois retraits, donc
voire plus. Pour un salaire
de 400 000 ou de 500 000 ou moins, donc tu es obligé d'aller deux ou trois fois. Donc déjà, au niveau de la banque, tu te dis, bon, je vais essayer de temporiser, je vais aller retirer mon argent tel jour. Ce qui fait que tu n'as pas la même inquiétude avant. Parce que ce qui dérangeait les gens avant, c'était qu'on risque de manquer d'argent totalement. Et chacun se bousculait pour pouvoir trouver quelque chose ou bien...
Ou soit vider tout son compte.
Vider tout son compte avant que ça ne fasse.
D'accord.
Mais maintenant, cette inquiétude-là, elle est aplanie. Les gens sont conscients qu'on va aller petit à petit pour sortir de cette situation.
Alors, je reviens vers vous. Monsieur Salifou Ibrahim Di Socrate, vous êtes économiste. Les citoyens nigériens, les usagers, plus principalement les usagers de la banque, sont confrontés à une situation particulière depuis le coup d'État du 26 juillet. La rareté de la liquidité, ils n'arrivent pas à accéder à leur argent à temps. Quelle est vraiment l'origine de ce problème?
Merci de m'avoir donné l'occasion de venir m'exprimer dans votre studio, Kalangou. Donc, la sécheresse financière qu'on est en train de vivre,
c'est le terme
approprié, et c'est dû aux sanctions prises, je dirais des sanctions illégales qui sont prises
sur le Niger,
par la CEDEAO et aussi par l'UMOA. Donc, ces sanctions visent le blocage systématique des transactions financières entre les banques. Et vous savez très bien que ce sont les banques centrales qui alimentent
les
banques commerciales. Donc, le marché financier est piloté par la banque centrale. Ce sont les banques commerciales, à chaque jour, elles partent frapper devant la porte de la banque centrale pour demander tel montant et venir faire face à leur clientèle. Imaginez, la liquidité n'est pas au terme qu'il faut et elle n'est pas à la quantité qu'il faut. Puisque même nos banques centrales des colonies, je veux dire, si je m'en tiens à la zone UMOA qui concerne 8 pays, le Niger, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, le Sénégal et la Guinée-Bissau. C'est dans cet espace que circule le franc CFA. Et toutes les banques centrales de ces 8 colonies, elles sont commandées par la banque centrale mère qui est à Dakar.
Oui.
C'est elle qui ravitaille ces banques centrales, qui à leur tour ravitaille les banques commerciales. Elle-même, la banque centrale de Dakar, elle est ravitaillée par la Banque de Paris, sur injonction du Trésor français parisien. Oui. Donc, comprenez que c'est la France qui détient la politique monétaire.
Le monopole, oui.
Le monopole. C'est la France qui décide quand est-ce qu'il faut donner la masse monétaire suffisante en circulation, la freiner, la ralentir. Or, c'est la monnaie. En économie, on dit qu'il n'y a que deux facteurs qui peuvent développer une économie. Il y a le capital humain, que nous sommes, les humains qui manipulent le franc. Il y a encore le capital financier. La masse monétaire en circulation, si elle est insuffisante, les transactions commerciales sont insuffisantes. Et ça amène du coup le ralentissement de l'économie. Si la monnaie en circulation est abondante au point de ne pas rentrer dans l'inflation, eh bien les transactions commerciales se font avec rapidité et l'économie croît. Donc si je reviens dans le domaine qui nous intéresse en débat,
oui, justement, oui.
La sécheresse financière, je donne un tout petit exemple. Peut-être là où vous êtes, vous avez besoin d'aller tout de suite au marché acheter un pain. Mais il n'y a pas l'argent. Le pain est là, mais il n'y a pas l'argent. Donc, voyez-vous, les transactions sont limitées.
Mais aujourd'hui, les usagers ont des difficultés à retirer leur argent à temps. Et l'usager s'est réveillé aujourd'hui avec, sans être informé qu'il devrait retirer soit 50 000 par jour, alors qu'avant, il avait la possibilité d'avoir plus. Qu'est-ce qui explique cette situation au niveau des banques?
Mais l'explication, je vous ai dit que c'est les sanctions illégitimes et illégales. Donc, c'est ça qui a amené la rareté de la masse monétaire en circulation. Ce n'est pas la faute aux banques. C'est la France, de plein vouloir, qu'elle a ralenti, qu'elle a, à travers la banque de Dakar, elle a ralenti le mouvement de l'argent, la circulation de l'argent dans l'espace financier. Donc, le peu d'argent qu'on gagne dans les banques, ce n'est pas la faute aux banques. Les banques, si ça n'en tient qu'à elles, elles sont prêtes à donner parce qu'elles tirent profit.
Ce n'est pas la faute des banques, mais vous, M. Kakame Tawaya, le président des consommateurs des services de banque, est-ce que vous ne pensez pas que les banques devraient bien communiquer bien avant pour le simple citoyen, pour qu'il sache à quelle situation il peut faire face?
Bon, vous me posez une question très difficile parce que moi, je ne peux pas parler à la place des banques.
Oui, selon vous, est-ce qu'ils ne devraient pas communiquer, selon vous?
Bon, elles peuvent communiquer si elles le désirent. Nous avons approché les banques pour leur dire au tout début qu'est-ce qui se passe. Beaucoup de banques nous ont expliqué. D'abord, il y a cette histoire de la BCAO, du fait qu'ils ne peuvent plus avoir de liquidité. Et entre-temps, c'était une période des commandes à l'étranger. Beaucoup de banques ont envoyé des milliards à l'étranger, donc en faisant des prêts aux commerçants. Maintenant, ces prêts sont partis. Mais avant l'arrivée des marchandises, les frontières sont fermées. Les commerçants n'ont plus la possibilité de mettre ces marchandises sur le marché
oui.
Et payer les banques. Et que faire? Maintenant, il faut imaginer en tant que professionnel qu'est-ce qu'il faut faire pour garder le minimum de liquidité qu'on a avec soi et servir correctement les clients.
Les clients, oui.
Ils ont dit c'est la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'est de diminuer la sortie, ralentir la sortie de l'argent des banques. Sans quoi, ils vont se retrouver dans l'obligation de fermer les banques. Et quand on va fermer, c'est encore un autre scandale national, parce que quand les banques ne sont pas opérationnelles, à partir de ce moment-là, c'est le chaos dans le pays. Mais maintenant, ils ont trouvé donc les astuces, chacune en ce qui la concerne, pour s'en sortir.
D'accord.
Je peux peut-être fixer le montant de sortie à tel niveau pour pouvoir gérer la diversité économique qui est en face de moi. Voilà en gros comment les banques nous ont expliqué la difficulté qu'ils avaient eue par rapport à cette décision de la BCE.
Et c'est en tant qu'usager de la banque, est-ce que ces raisons ont été convaincantes pour vous?
Moi, personnellement, en tant que consommateur,
oui.
Je ne peux que qu'accepter le principe. Parce que imaginez qu'une banque laisse les vannes ouvertes. Elle veut tout ce qu'elle a comme liquidité. Mais après, s'il n'y a plus d'argent qu'elle peut distribuer aux clients, à partir de ce moment-là, elle cesse
mais pour son le fonctionnaire, activité. Mais pour le fonctionnaire qui quitte chez lui depuis 4h, 5h du matin pour attendre jusqu'à 12h avant de retirer cet argent, est-ce que ces raisons peuvent être convaincantes?
Oui, c'est sûr. Celui qui a son argent et celui qui a son argent en compte, lui, tout ce qu'il pose comme promette et comme paramètre, c'est de me payer. C'est ça son exigence. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Si la banque ne peut pas te payer, qu'est-ce que tu peux faire? Parce que la banque ne peut pas, de son propre gré, refuser de te payer l'argent que tu as déposé.
D'accord. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, nous parlons aujourd'hui de la crise économique au Niger suite au coup d'État du 28 juillet et de la manière dont les usagers des banques s'adaptent à la situation. Et justement, dans cette deuxième partie, nous allons voir comment les usagers s'adaptent. Pour cela, je vous propose de suivre quelques commerçants interrogés par le studio Kalongo. On les écoute.
Ces problèmes liés au retrait d'argent dans les banques nous affectent énormément parce que nous, commerçants, nous faisons des commandes à l'extérieur et le fournisseur ne veut pas comprendre qu'on lui dise qu'on n'a pas pu retirer de l'argent à la banque pour lui envoyer. Et maintenant, les fournisseurs exigent de la liquidité et il leur arrive d'annuler nos commandes. C'est vraiment compliqué.
En tant que commerçante, je ne suis pas du tout satisfaite des banques ces derniers temps parce que je n'arrive pas à faire mes achats à temps car à la banque, il m'est difficile d'avoir à temps mon argent que j'épargne. Cela ralentit vraiment mes activités, ce qui nous amène à ne même pas vouloir épargner nos revenus dans les banques. On préfère même garder notre argent à la maison.
C'est vraiment difficile la situation que nous vivons, mais bon, chacun saura comment s'en sortir. Ils sont minimes les commerçants qui déposent leur argent à la banque, mais c'est vraiment très risqué maintenant. Notre souhait, c'est de voir cette situation réglée.
Alors, c'est le même cri de cœur partout. Plus de 5 mois, la situation est toujours là. Les citoyens s'adaptent difficilement. Alors, vous, monsieur l'économiste, monsieur Salifou, cette situation, quel impact elle pourrait avoir sur l'économie aujourd'hui?
Mais c'est un impact négatif. L'économie est en berne. Il n'y a pas de transactions commerciales, comme je viens de le dire. Et s'il n'y a pas de transactions commerciales, voyez-vous, les échanges sont ralentis. C'est les échanges améliorés avec rapidité qui produisent la richesse. La richesse n'est pas produite. Et si la richesse n'est pas produite, le surplus qui devrait être rentré dans les banques, lui aussi, il n'est plus là.
Justement, certains des commerçants disent maintenant ne même pas vouloir verser leur argent dans les banques, ils préfèrent les garder chez eux.
Oui, tout à fait. Dans le mécanisme du commerce, j'ai entendu un. Vous savez, le marché, il y a ce qu'on appelle le crédit documentaire. Vous êtes là, vous avez votre partenaire au Pakistan et vous lancez commande de 1000 tonnes de riz. C'est très simple. Vous frappez votre banque commerciale, vous manifestez l'intention de commander 1000 tonnes de riz au Pakistan. Eh bien, la BIA, qui est votre banque ici, elle va alerter la banque mère qui est belgolaise Bruxelles, laquelle va fouiller au Pakistan quelle est la banque avec laquelle elle lie.
Elle lie, oui.
Et elle lui donne instruction que monsieur un tel qui est pakistanais n'a qu'à lancer la commande de 1000 tonnes à madame tel au Niger. Et c'est la BIA Niger avec la belgolaise qui vont régler les transactions à travers le crédit documentaire. Mais donc, si la BIA constate qu'il n'y a pas de liquidité pour répondre à l'appel de la belgolaise, mais elle ne va pas exécuter le crédit documentaire. Même si l'action a été engagée de l'autre côté, mais s'il y a insuffisance financière, elle est carrément suspendue. D'ailleurs, on a dit que toutes les transactions monétaires sont interdites envers le Niger. Ça veut dire qu'il n'y aura pas sortie d'argent comme il n'y aura pas d'entrée d'argent. Donc, nous sommes dans une situation suffocante qui est que la France nous a imposé.
Selon vous, oui.
Selon moi, oui, c'est même ça, puisque la France a dit à la CEDEAO, la CEDEAO, c'est elle qui commande l'UMOA.
Est-ce que c'est officiel, c'est prouvé?
Mais les sanctions qui sont prises, elles sont comment? Vous étiez là, non? Aussitôt après le coup d'État, la CEDEAO, vous avez vu? L'UMOA, on a dit de suspendre les transactions commerciales. Si on dit de suspendre les transactions commerciales, tout ce qui est sorti d'argent à partir du Niger, c'est bloqué. Tout ce qui est entré d'argent à partir du Niger, c'est bloqué. Jusqu'à nouvel ordre, pour des raisons du coup d'État. Donc, considère que cette sécheresse financière, ce n'est pas qu'il n'y a pas suffisamment d'argent en direction du Niger. C'est parce que c'est bloqué.
Mais aujourd'hui, c'est la situation que nous vivons. Mais à long terme, quelles peuvent être les autres conséquences que cela pourrait engendrer?
Je ne souhaite pas qu'on ait à long terme. La solution est toute simple. Il faut qu'on ait notre propre monnaie.
Nous allons venir aux solutions dans notre dernière partie de cette émission.
D'accord. Maintenant, considère que cette solution-là, tant qu'il n'y a pas la levée de ces mesures, on va vivre cette solution, puisque ce n'est pas nous. Le franc CFA ne nous appartient pas. Nous subissons.
Donc, selon vous, en quelque sorte, la question même du franc CFA qui ne nous appartient pas peut peut-être expliquer aussi ce problème auquel nous faisons face aujourd'hui.
Non, c'est même pas, faut pas dire peu. Ça explique même. Ça explique. C'est parce que quand tu n'as pas la tutelle de la politique monétaire, tu subis. Donc, tu es obligé d'obéir. Là où vous êtes, je ne le souhaite pas. Si vous êtes esclave de quelqu'un, vous êtes obligé de subir ce qu'il vous dit. Mais lorsque vous prenez votre liberté, personne ne peut vous imposer quoi que ce soit. Cette sécheresse financière qu'on vit, si le Niger crée sa propre monnaie, est-ce que le Niger va se poser des questions pour fabriquer rapidement l'argent qu'il faut et répondre à sa clientèle? Est-ce que le Niger va se poser des questions pour fabriquer l'argent qu'il faut pour payer les salaires? Regarde, imagine, prenons l'exemple du Nigeria. Le Nigeria qui a la possibilité à tout moment de créer son ERA. Est-ce que le Nigeria a besoin de l'Angleterre pour créer sa monnaie? À tout moment, la Banque centrale du Nigeria, elle peut se lever à temps voulu créer la monnaie qu'il faut et la mettre en circulation. Toute chose qui n'est pas le cas chez nous, parce que la monnaie ne nous appartient pas. Donc, il est important qu'on le comprenne. Le franc CFA, ce n'est pas notre monnaie. Et tant qu'on est sous les injonctions de la France à travers le franc CFA, eh bien, on n'est pas loin des problèmes de ce genre.
D'accord. Alors, monsieur Kaka Maitawaya, plus haut, vous aviez entendu quelques commerçants qui sont dans la crainte aujourd'hui de verser leur argent dans les banques pour ne pas avoir accès à ces sommes. Qu'en dites-vous aujourd'hui?
Oui, tout à fait. On avait ébauché le problème tout à l'heure. C'est que les gens qui ont même profité de la vente après élévation du prix des différentes marchandises, n'ont pas voulu amener leur argent au niveau des banques. Ils les ont gardés chez eux. Ce qui fait que, au fur et à mesure que les retraits se faisaient et que les gens vendaient et encaissaient, ils ne ramenaient pas à la banque. Alors que tout le monde sait que le système de la banque s'est versé Prendre. Mais ici, le plan est incliné. On prend seulement. On ne verse pas. Donc, à partir de ce moment-là, l'activité bancaire est en danger. Elle était en danger. Il faut le reconnaître. Parce que je me souviens un peu de la crise qu'on a eue de la BDRN en son temps, quand le pays était en difficulté économique. Au niveau de la banque, on nous payait avec des pièces, des sacs de pièces. On prend, voilà, 25 francs, un paquet de 20.
Tout un salaire.
Oui, dans le salaire. Oui, en pièces. Donc, on était arrivé à un moment où on dit, bon, ça ne va plus. On a arrêté, on a ramené tous les fonctionnaires au billetage. Donc, les banques, c'est des outils de commerce très fragiles. Si on ne les accompagne pas, elle ne peut pas tenir debout. Et c'est pourquoi nous avons, dans une déclaration, nous avons demandé aux commerçants et autres de faire confiance au réseau bancaire, parce que la situation là, ce n'est pas leur fait.
Donc, si on peut comprendre, aujourd'hui, vous, usagers de la banque, le syndicat des usagers de la banque, vous comprenez vraiment cette situation? Vous acceptez cette situation à laquelle les usagers font face à la banque?
Oui, ça dit, il faut quand même... Comme on dit, il faut quand même nuancer. Nous, ce n'est pas parce qu'on veut que ça soit comme ça. Pour nous, les clients doivent être satisfaits.
Oui.
Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Nous disons, nous avons une préférence. Nous avons un choix à faire. Ou nous voulons que les banques s'arrêtent ici et maintenant, tout de suite, elles ferment. Ou alors nous voulons accompagner les banques pour qu'on sorte de cette situation.
Mais quelles sont réellement, concrètement, les conséquences sur le client aujourd'hui?
Non, les conséquences, on l'a dit tout à l'heure. Puisque vous avez envie de régler un certain nombre de problèmes sur coup, c'est-à-dire vous partez à la banque, vous prenez votre salaire, vous réglez l'électricité, vous réglez ceci, cela, vous êtes quitte. Mais maintenant, vous prenez un minimum. Vous venez, vous êtes obligé de régler les choses en partie. Et après, maintenant, il faut encore recourir à la banque pour reprendre encore le marathon. Ce qui fait que ça indispose le consommateur, non seulement sur le temps, et sur l'impact économique aussi.
Mais est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, vous recensez des plaintes des clients?
Non, on recense. Mais maintenant, par rapport à la plainte fondamentale aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas payé à temps. Notre argent est accroché. Ça, c'est la première plainte. L'autre plainte, les autres plaintes sont devenues des plaintes purement secondaires. Avant, nous nous plaignons du taux d'intérêt, avant, nous nous plaignons des gaps, avant, nous nous plaignons de tas de choses que les banques auraient dû améliorer. Mais aujourd'hui, tout ça, là, nous avons obligatoirement mis ça entre parenthèses pour voir comment on peut sortir de cette situation de blocage ou de retrait, ralenti. Imaginez-vous, la femme a dit, moi, je suis commerçante, je veux faire une commande. Je vais chez le commerçant qui est censé me fournir l'argent, je lui donne le chèque et ne prend pas le chèque. Il veut la liquidité. Donc, à partir de ce moment-là, tout se gâte. Est-ce que moi, je prends mon argent, je mets dans la banque et après je donne un chèque que le gars refuse? On a eu des plaintes où les gens ont donné à leurs bailleurs des chèques. Et les bailleurs ont refusé de prendre les chèques. Ils disent qu'ils veulent
Ils veulent de la liquidité. Oui, oui.
Donc voilà le problème qui est là, qui est général et que vraiment nous ne pouvons pas régler à notre niveau. Vraiment, si on dit qu'on va gérer ça, on va régler ça, on a menti.
Un problème qu'on ne peut pas alors régler, oui, monsieur Salifou, qu'en dites-vous?
On ne peut pas le régler puisque le problème, il est là, il nous a été imposé, comme je l'ai dit. Il nous a été imposé. Il n'y a pas de masse monétaire suffisante en circulation pour faire face aux échanges commerciaux. Il vient de le dire. Et deuxièmement, les banques sont en train de s'acheminer vers une crise. Qu'est-ce que j'entends par crise? Ne soyez pas étonnés que demain, que certaines banques ferment. Donc, c'est une crise qui est en train de s'installer au niveau des banques. Et si on ne fait pas attention, on sera en face d'une situation où beaucoup de banques vont fermer par manque de liquidité, il vient de le dire. Donc, la raison d'une banque, c'est la liquidité.
Les conséquences, c'est sur l'usager directement.
Mais c'est sur l'usager, puis c'est lui qui est déposant. Il dépose son argent. Et au fur et à mesure que la crise est dure, comme il vient de le dire, tout le monde s'acharne à retirer le peu qu'il a pour déposer chez lui. Le peu qu'il a pour thésauriser ça chez lui. Et lorsque ton argent n'est plus à la banque, tu réduis le fonctionnement de la banque. Voyez-vous? De l'autre côté, la banque ne reçoit pas assez au niveau de la banque centrale. De ce côté, la banque ne reçoit pas assez au niveau de ses clients qui sont tout le temps là. Conséquence, la banque risque de s'écrouler. Puisque c'est ça que la banque n'aime pas. Une crise de peur. Les gens vont courir, prendre tout leur argent.
Tout leur argent, oui.
C'est ça que la banque n'aime pas. Or, cette crise-là, elle est là. Et indépendamment, ce n'est pas la banque qui les a amenés, c'est la France, ce sont les actions de la CEDEAO.
Alors, nous allons observer une petite pause avant de poursuivre. plus de 5 mois donc après le coup d'État du 28 juillet, les usagers des banques continuent d'avoir des problèmes d'accès à leur argent dans les banques. Alors, quelle solution durable à apporter aux problèmes posés plus haut? Dans cette dernière partie, nous allons donc mettre l'accent sur les voies et moyens à suivre. Et je commence par vous, Monsieur Kaka Metawaya. Aujourd'hui, quelle est la solution vraiment que vous proposez et qui convient à ces usagers?
Je rectifie un peu ce que le camarade vient de dire.
Oui.
Quand vous partez faire des retraits, on vous dit de vous mettre de côté en attendant l'arrivée d'un versement. Vous voyez, quand une banque est réduite à ça, toi, client, tu es venu pour régler, retirer de l'argent et courir à autre chose.
Tu peux on pas, te, oui.
On te met de côté dire
il faut
de
attendre.
Perdre du temps. Donc ça, vraiment, c'est déplorable. Bon, mais c'est la circonstance qui l'a créé. Maintenant, l'issue de sortie, nous l'avons déjà ébauchée en disant que la seule solution, il faudrait que au niveau politique, des solutions soient trouvées.
Comme quoi?
Ou on négocie dans les conditions d'ouverture pour lever ces sanctions, permettre donc à nos banques d'être ravitaillées par la Banque centrale, ou alors, comme on l'a dit tout à l'heure, on frappe notre monnaie, on fait notre Banque centrale de la dynamique de l'AES. À partir de ce moment-là, je pense que on peut amoindrir le problème qui se pose à nous à l'heure actuelle. Mais sinon, nous, je ne vois pas l'alternative pour nous, puisque nous ne fabriquons pas cette monnaie. Ceux qui fabriquent la monnaie la disent, ils ne vont pas nous la donner tant qu'on ne fait pas ça.
Alors vous défendez aujourd'hui les droits des consommateurs des services des banques. Qu'est-ce que vous faites au niveau de votre association vraiment pour un allègement de la souffrance de ces citoyens?
L'allègement de la souffrance, vraiment honnêtement, nous n'en avons pas la capacité. Mais tout ce que nous faisons, c'est de demander aux clients, aux consommateurs, de continuer à comprendre les banques pour éviter la catastrophe.
C'est-à-dire,
si vous avez de l'argent à verser, n'hésitez pas. Si maintenant les banques disent « voilà comment nous devrons gérer, comprenons-les et gérons la crise ensemble. Mais si on ne fait pas ça, nous allons trouver des milliardaires qui vont devenir pauvres. »
Mais est-ce que vous avez aussi déjà eu à rencontrer même les agents des banques pour comprendre la situation concrète?
Non, je te dis qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes, nous n'hésitons pas à rencontrer les DG des banques. Pour demander qu'est-ce qui se passe et pourquoi il y a telle situation. Donc, les DG nous donnent leur explication technique. Mais nous n'avons pas, nous, la possibilité d'aller dans leur coffre, regarder ce qui se passe.
D'accord.
Mais nous faisons un peu de la compréhension professionnelle parce que nous pensons qu'une banque, elle est une boutique qui cherche la crédibilité. Si tu fais des choses qui vont créer des entorses à ta popularité, je pense que à partir de ce moment-là, tu ne joues plus ton nom.
Et
ton
la rôle. Crédibilité.
Et mais s'ils le font, nous disons que de bonne foi, nous sommes d'accord qu'il y a un prétexte de situation qui est là, qui leur permet de faire ça.
D'accord.
Parce que nous avons dit tout à l'heure que si on doit fermer les banques, c'est le cas dans le pays.
Alors, puisque la situation persiste, vous, M. Salifou Ibrahim, économiste, comment les usagers de la banque peuvent s'adapter ou bien doivent s'adapter? Est-ce qu'il y a des alternatives à suivre? Qu'est-ce que vous proposez?
Les alternatives, elles sont toutes simples. Maintenant, j'imagine que toutes ces banques commerciales qui sont de l'espace financier nigérien, chaque banque, en ce qui la concerne, elle a un capital qui lui est propre. Maintenant, puisque la Banque centrale ne donne pas assez d'argent, il faut qu'entre les banques commerciales elles-mêmes, celle qui est nantie, qui est suffisamment riche, qu'elle rétrocède pour tenir le fonctionnement de l'autre. Ça, c'est une alternative.
La première, oui.
Deuxième alternative, puisque Dieu a fait que nous sommes réunis dans l'AES, Niger, Burkina, Mali, et que c'est le même franc CFA qui circule dans cet espace, avec peut-être les relations de bon voisinage et de la dynamique qui nous lie, peut-être on peut y avoir un ravitaillement rapide. Ne serait-ce que la banque centrale, par exemple, du Burkina,
oui,
peut ravitailler celle du Niger, ainsi de suite.
Si possibilité il y a.
Puisque dans tous les cas, la logique est la même chose, c'est le même combat, c'est la recherche de la souveraineté. Et la souveraineté, elle peut pas se faire, la recherche de la souveraineté ne peut pas se faire quand le peuple est en proie à des difficultés. Pourquoi je le dis? C'est ça qu'aime la France, qu'il y ait une diminution du pouvoir d'achat qui va créer une crise, et elle profite pour alimenter cette crise et satisfaire ses ambitions. Dieu ne lui donne pas cette chasse, Inch'Allah. Donc l'alternative, il faut qu'entre les trois banques centrales, Niger, Burkina, Mali, qu'il y ait une rétrocession des capitaux pour pouvoir tenir tête. Et entre nous-mêmes, les trois pays, ce que nous pouvons vendre au Burkina en termes du pétrole ou bien je ne sais pas, qu'on le vende et qu'on prenne dardard les liquidités.
Oui.
Donc ça, c'est une des alternatives. Mais moi, je suis d'accord, quel que soit le prix des difficultés, qu'on avance à la recherche de notre souveraineté et qu'on surmonte les difficultés. Les Nigériens n'ont qu'à comprendre, c'est dans leur intérêt, autant manquer d'argent à acquérir la souveraineté que de perdre la souveraineté et avoir suffisamment d'argent. Il faut que les gens le comprennent.
Alors vous, monsieur Kakame Tawaya, qu'est-ce que vous pensez de ces propositions de l'économiste, qu'il s'agisse de la rétrocession des capitaux entre les trois pays de l'AES? Est-ce que ça pourrait faciliter ou bien alléger la souffrance des usagers des banques quant à l'accès à la liquidité?
Si cela est possible, c'est une solution. Mais maintenant, il faut aller regarder dans ce que disent les textes.
Oui, justement.
De la BCAO en la matière. Je sais que les transactions par pays sont séparées, même si elles sont communes, puisque les devises ne sont pas communalisées, elles sont communalisées au niveau de Dakar. Et maintenant, le grand handicap, c'est qu'il n'y a pas de transactions envers le Niger. Et c'est Dakar qui doit autoriser la transaction si elle doit venir vers le Niger. Et nous savons déjà la position de Dakar.
Donc, quelle est cette position?
La position, c'est non vers le Niger. Vous voyez? Donc, à partir de ce moment-là, l'argent qu'on nous envoie de l'étranger et qui est passé par Dakar pour Niamey, c'est là-bas qu'on bloque cet argent-là, puisque c'est informatisé. À partir de ce moment-là, le Burkina et le Mali auront des difficultés à verser cet argent par voie électronique en direction du Niger. Peut-être, si ce n'est pas dans les caisses ou dans, je ne sais pas, qu'on peut amener cet argent, c'est possible. Mais si nous devrons respecter la forme, ça m'étonnerait que cela soit possible dans la forme. Donc, moi, je me dis que la meilleure option, telle qu'il l'avait dit, c'est d'avoir la possibilité de battre notre propre monnaie. Si cela peut se faire dans les meilleurs délais. À défaut, nous sommes obligés de faire des concessions entre nous, de nous sacrifier et de serrer la ceinture pour que ce temps passe et peut-être qu'après nous allons...
Oui, est-ce que vous avez une recommandation pour les banques qui sont, si on peut le dire, dans l'obligation de satisfaire leurs usagers? Quelles sont vos recommandations dans de telles situations?
Bon, moi je me dis que quelles recommandations on peut faire à une banque qui a envie de garder son client?
Au moins une communication autour de la situation.
Est-ce que c'est ça qui va arranger la situation? Moi je pense que les difficultés sont là et on avait parlé effectivement de la complémentarité bancaire. Là aussi il faut connaître ce monde-là. C'est un monde très égoïste. C'est des commerçants. ils sont concurrents jusqu'aux os. Personne ne veut savoir ce que l'autre fait pour gagner. Alors, vous voyez bien qu'ils ne peuvent donc pas donner de l'argent parce que toi, tu veux prendre tout le monde comme client. L'autre veut prendre tout le monde comme client. Donc, à partir de ce moment-là, ce qui te fera sourire, c'est de voir que l'autre est par terre et que ses clients l'avant venir vers toi. Donc, vous voyez, c'est une situation très délicate.
Et un dernier appel pour les consommateurs des services des banques?
Non, moi, l'appel que je vais lancer, c'est qu'il faut que les gens soient résilients. Ceux qui ont la possibilité de déposer quelque chose, qu'ils continuent à faire confiance aux banques du Niger, qu'ils les déposent pour que les autres puissent en avoir. Et d'accepter ces principes de faire les petits retraits là, pourvu qu'on existe.
Alors, rapidement, comme nous sommes à la fin de cette émission, M. Salif, un dernier mot, un appel, une recommandation?
Donc, d'abord, je vous présente les félicitations et les remerciements de notre Fédération Niger Unie pour m'avoir invité en tant que président de cette fédération. Les recommandations, elles sont toutes simples et elles viennent de ce qu'il dit. Il faut que les Nigériens, dans leur action d'entraide, ceux qui ont déposé leur argent dans leur caisse, dans leur maison, et vraiment de les verser à la banque, c'est un peu secourir les autres. Et deuxièmement, nos dirigeants, puisque nous sommes de l'AES, ce n'est pas un secret, ils peuvent s'associer vers les autres, le Burkina et le Mali, qui eux, ils ont déjà pris le train en marche, ils sont habitués de faire recours au Niger pour éradiquer cette sécheresse financière. Mais l'un dans l'autre, il faut qu'on s'habitue. On est lancé dans une lutte, plus de 60 ans de domination par la France, une domination financière à travers le franc CFA. Il faut qu'on s'en débarrasse. Et vous allez voir que notre économie va prendre son rythme avec sa propre monnaie. C'est l'espoir que je fonde.
Alors, c'est donc sur ces propos que prend fin cette émission. Donc, le problème de la crise économique, la situation au niveau des banques, les usagers qui sont dans les difficultés de retirer leur argent à temps est une réalité qui persiste aujourd'hui au Niger. Selon les interventions de nos invités, la seule solution, c'est qu'au niveau politique, peut-être qu'il faudrait penser à la levée des sanctions de la CEDEAO et aussi peut-être à l'AES qui regroupe en son sein le Mali, le Burkina et le Niger doivent penser à la création d'une monnaie unique pour sortir de cette crise. C'est ici donc que prend fin ce forum. Nous étions en compagnie de M. Kaka Metawaya, il est le président de l'Association des consommateurs des services des banques. Nous étions également en compagnie de M. Salif Ibrahim d'Isocraste, il est économiste. Le syndicat des agents des banques invité n'est pas venu. Je suis Nafisa Adam Sirfa, la modération, la technique a été assurée par Abdelkader Tchambiano, la régie vidéo par Mustapha Ayouba. À très bientôt sur le studio Kalangou. Au revoir.